20h04 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport en des temps plus que chaleureux. La canicule s'est invitée sur les terres angevines, vigilance, c'est jaune il me semble, ou orange peut-être même, je ne sais plus.
Je crois qu'on passe en orange demain.
Orange, hein, orange, voilà, donc buvez de l'eau, restez à l'abri, évitez le sport, c'est nous qui le disons.
Mais, pratiquez le soir.
Ça, pratiquer le soir quand
voilà,
il fait
regardez la NBA, etc. Wembanyama ce soir, on va pouvoir.
Exactement,
parler.
À 2h30 du matin, ou bien très tôt le matin, après le match de Victor Wembanyama qui vous aura peut-être donné des envies. Avec moi ce soir, vous l'avez entendu, quelqu'un qui n'a pas profité du soleil à Cannes, car c'était pas encore au rendez-vous, mais il a profité des strass et des paillettes, c'est Mathéo. Salut Mathéo.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Bah oui, effectivement, j'étais au Festival de Cannes, donc j'ai quand même profité. Alors, il a fait beau tout le temps à Cannes, okay. Ce qui est bien, surtout que la semaine, je crois que c'était il y a 2 semaines, il faisait pas beau à Angers.
Non, en effet.
Alors que nous, c'était génial, grand soleil, la plage et tout. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu bizarre de partir quand il faisait 33, 34, quoi. Donc c'est ouais. un peu décevant, voilà. Mais c'est pareil, c'est des trucs qu'on peut pas, normalement, on se pose pas ce genre de problème-là, quoi. J'ai été à la mer, c'était cool, et puis voilà, quoi.
Voilà, et puis t'as vu quelques projections, j'imagine.
Ouais, j'ai vu pas mal de films, une quinzaine en une semaine quand même. Donc ouais, puis j'ai pu profiter, j'ai fait des randonnées, j'ai été en Italie aussi un peu.
Excellent.
Donc non, franchement, je me suis fait des vraies vacances. Et
une
puis,
belle semaine de vacances, ouais.
Exactement, et puis pour mieux revenir là ce soir, finalement.
Évidemment. Et on va commencer sans plus tarder, comme vous en avez l'habitude, avec les actualités locales. Et je vais commencer par parler un peu de moi. Voilà, parce que les U21 d'Avrier se sont qualifiés pour la finale R1.
Bravo.
Voilà, merci beaucoup. Ce sera le 13 juin au Mans, contre le Mans. Pas de chance.
Grosse équipe,
ouais, du Mans.
Qui en plus joue à domicile.
Sera un peu boosté par les supporters. Ce sera pas un match facile, mais voilà, si certains auditeurs se sentent capables de faire le déplacement.
Bah justement, voilà. Si on veut venir, comment on fait?
Eh ben, vous prenez votre voiture et vous venez à la salle.
Non, mais il y a un truc, il faut s'inscrire.
Non, il y a rien. C'est entrée gratuite pour tout le monde, pour tous les supporters, ceux qui veulent voir du beau basket, des finales régionales, c'est toute la journée à la salle du club du Mans CSSG. Voilà.
Et comment tu te sens à l'approche de cette finale, mais qui se transforme en
Non, bah finalement, ça va être compliqué. Hein. Si je raconte un peu notre histoire de cette saison, on a démarré, on n'était même pas en région. Le club croyait pas en nous, on n'a pas eu de coach fixe de toute la saison. On était une toute nouvelle équipe, donc c'est que du bonus pour nous. Donc on y va sans crainte, sans pression. On verra bien ce que ça va donner.
Vous avez fait parler le talent tout au long de la saison. Quoi.
L'effectif qui s'est bien construit, c'était un groupe qui vit, c'était un groupe qui marche. Et ben on est la preuve incarnée, je crois.
Magnifique.
voilà, on va continuer dans le basket local, un niveau professionnel cette fois, avec l'UFAB, parce qu'on sait déjà un peu plus, on en sait déjà plus sur les mouvements que va connaître l'effectif angevin. Déjà, seules deux joueuses restent à Angers, Eva Mautou et Rosane, Le Seyec. On connaît également les deux premières arrivées du côté de l'UFAB, c'est Célia Cardonal, qui a franchement été élue MVP des finales de Ligue 2 féminine, et Aris Daissanet, en provenance de l'ASVEL. Voilà, on risque d'avoir beaucoup d'arrivées cette saison parce que je l'ai dit, seulement deux joueurs de l'effectif restent. Donc un mercato plutôt agité. Pour Cholet maintenant, il joue en ce moment le match 1 des quarts de finale de Betclic Elite contre l'ASVEL et c'est actuellement la mi-temps et Cholet mené 42-30 en terre lyonnaise. Voilà, va falloir se reprendre. Après, c'est le deuxième carton qui a pêché avec un 25-12 pour l'ASVEL, oui, c'est très bien.
Oui, c'est l'ASVEL.
Ouais. Pourquoi je doute. voilà, donc à suivre, on vous donnera le résultat de ce match au cours de l'émission. Du côté du Score Rugby, malheureusement, c'est malheureusement une fin de saison pour eux qui s'inclinent 19-29 contre Paris 15. Ils sont donc éliminés en 16e de finale. Une saison toujours très encourageante avec une première place en poule arrachée en fin de championnat et une élimination en 16e de finale face à une bonne équipe de Paris. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Mathéo, de cette saison du Score Rugby qui est, on est d'accord, encourageante et plutôt réussie?
Ouais, carrément, mais en fait, comme chaque année, j'ai envie de dire, ouais, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois à ça de monter, mais c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que là, on n'a jamais été peut-être aussi proche de montrer en Fédéral 2. Parce que je sais plus combien ça fait le match aller, mais là, le match retour, c'est quand même assez serré, alors on perd les deux.
Ouais. Le match aller est encore plus serré, il n'y avait que 4 points d'écart.
Ouais, donc, c'est impressionnant. On est à ça. Maintenant, il faut pas perdre la dynamique la saison prochaine, ouais, pas se dire, ah, on n'y arrive pas. Non, c'est. On y va petit à petit.
Ça va le faire.
Petite marche par petite marche, et puis effectivement, ça le fera.
Tout à fait. On espère fort. Voilà, on verra s'il y a du mouvement aussi cet été au Score Rugby. Ça risque d'être moins mouvementé qu'à l'UFAB, on imagine. Voilà, peu d'actualités locales. On va finir rapidement sur le SCO. J'aimerais bien, parce que la saison est finie, on a parlé rapidement la semaine dernière, mais Mathéo, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette saison du SCO globalement?
Bah écoute, très bonne saison, moi j'ai envie de dire quand même, loin des attentes initiales. Je m'en rappelle en début de saison, moi je voyais le SCO comme un beau barragiste, ouais. Quand même, ce qui aurait été une très belle chose, hein. Enfin, franchement.
Plusieurs qui étaient d'accord sur ça, je crois.
Ouais, carrément. Bah c'était la place la plus haute, je pense, à laquelle on a émis le SCO.
Il me semble que quelqu'un les avait mis 14e. Je les ai plus en tête, les classements qu'on avait fait. Amaury ou Florian les avaient mis 14e.
Ok, donc très très optimiste pour le coup, mais réaliste. Mais c'est vrai qu'avec le mercato qu'on avait fait, il y avait plein de pistes qui c'était pas fait, la Molascari qui a même pas pu signer, fait une belle saison à Brest en plus.
Ça.
Donc non, franchement, on avait plein de choses, des pistes qui se faisaient pas, etc. Et au final, énormément d'inconnus, beaucoup de joueurs aussi qui se sont dévoilés comme ça en cours de saison, même si on était plus ou moins sûr de leur qualité. Je pense à Silky Chéri forcément, et Prosper Peter,
forcément.
Mais pas à ce niveau-là. La fin de saison est peut-être un peu plus à nuancer, même si c'est pareil, le score était presque maintenu. On comprend, il y a aussi des joueurs qui feront pas partie du projet la saison prochaine sans doute. Enfin, je pense pas que Kofi va revenir, malheureusement. Même si ce serait intéressant. Après, je pense que vu la saison, il y a moyen qu'ils deviennent, pourquoi pas, selon les circonstances, le portier de Lens la saison prochaine.
Ouais, si Robin Isser
quitte le club. Donc non, il y a des joueurs qui faut aussi maintenant mettre dans le projet. Je pense à Koyalipu, qui est arrivé en janvier pour remplacer Sidiki Chérif, qui a pas été transcendant sur cette fin de saison. Donc maintenant, avec une vraie préparation, on va voir ce que ça peut donner. Il y a des joueurs comme Van den Bomen aussi qui vont partir, donc il va falloir remplacer. Donc en fait, cette saison, elle est intéressante. Moi, je trouve, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Mais après, il va falloir rebondir encore, comme chaque année, avec le SCO. Et donc, c'est toujours des saisons à nuancer, même si effectivement, on s'en est très bien sorti.
Ouais, évidemment. Et puis, avec cette vente de Sidiki Chérif à la mi-saison, cette vente d'Esteban Le Poll au début de la saison, c'est quand même des caisses qui ont été bien renflouées. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Il y aura une certaine liberté financière qui reste moindre par rapport à de nombreux clubs de Ligue 1, mais qui sera plus grande que les autres saisons. Donc, on peut s'attendre à des mouvements intéressants. Aller chercher des jeunes pépites, peut-être que tu me feras un petit scouting
durant l'été. On va forcément faire un petit sujet mercato. Non, mais déjà, cet argent-là, ça permet au moins de tanker les droits télé.
Voilà, c'est ça.
C'est au moins ça, quoi.
Toujours très faible.
C'est ça. Même avec la vente d'Esteban Le Poll qu'on n'a pas réinvesti. Donc, après, on verra si on peut mettre de l'argent sur le marché des transferts, ce serait fou.
Ce serait à hauteur de très peu d'argent, quand même,
Oui, c'est sûr.
À la Ligue 1, mais ce sera déjà ça plutôt que des prêts.
Ou des joueurs libres, sinon.
Cette année, c'était beaucoup de prêts qui ont permis au SCO de se maintenir. Bah, Hervé Kofi, Van den Bomen, tous ces joueurs-là qui ont sauvé un peu le SCO.
Puis avoir les ventes aussi. Enfin, je crois que j'avais vu. Alors après, j'ai l'impression que c'était plutôt une rumeur d'agent, mais Kaminsbay intéressait beaucoup en Bundesliga et tout. Donc, pourquoi pas. Après, je pense qu'à Kaminsbay, on en tire 5 millions. Moi, je l'emmène à l'aéroport directement.
Ouais, c'est clair.
Mais à voir s'il y aura des ventes pour réinvestir derrière. Mais voilà, moi, je pense que ça va être un été mouvementé qu'il va falloir suivre. Et qu'il va falloir faire la même chose que l'été dernier.
La première rumeur que j'ai vue passer, c'était Anthony Lopez pour le gardien nantais actuellement. Pour remplacer Oka. J'ai vu ça en cherchant un peu cet après-midi des news sur le SCO. J'ai trouvé que ça.
Il n'y a pas grand-chose en ce moment.
Je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est sérieux. J'ai même pas regardé réellement le contrat de la PES. C'est sur West France que j'ai vu.
Ah oui, d'accord, ok.
J'ai pas vu ça sur Twitter.
Pas que tu fous tout
ça. Non, c'était... Mais bon, je sais pas ce que ça vaut, ça doit être une première rumeur, voilà.
Ouais, bah après, j'imagine que là, l'agent d'Anthony Lopez, il doit être comme un ouf. Anthony Lopez, il va pas aller en Ligue 2, je pense, donc forcément. Mais non, bah après, Anthony Lopez, oui, c'est un oui.
C'est l'expérience.
Avoir un niveau du salaire, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, puis il a encore, il a fait les Beaux-Arts l'année dernière, il est encore plus ou moins en forme, je trouve, quand même, Anthony Lopez. Ouais.
Voilà, un Lyonnais qui viendrait à Angers, ce serait pas pour se déplaire, j'imagine. Voilà pour le SCO. On peut enchaîner, si tu le souhaites, avec la Ligue 1 rapidement.
Ouais, c'est ça, bah plutôt la Coupe de France même.
Oui,
parce qu'il y a des sacres qui réécrivent l'histoire, puisque après les désillusions de 1948, de 1975, de 1998, le Racing Club de Lens a enfin vaincu en finale de Coupe de France le 22 mai dernier dans un stade de France drapé de sang et d'or. Les hommes de Pierre Sage ont remporté la toute première Coupe de France de leur histoire en s'imposant 3-1 face à l'OGC Nice. Une rencontre tout à fait plaisante dans le contenu qui a vu à la 25e minute Florian Thauvin, bien servi dans l'axe par Mathieu Hudol, prendre de vitesse Hicham Boudaoui pour venir crucifier Maxime Dupé d'une frappe croisée du gauche. Un coup de froid total pour les Aiglons qui ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes sur ce premier but. Côté Lensois, on peut compter sur un Thauvin des grands soirs, décidément dans tous les bons coups, qui va déposer à la 21e minute un corner sur la tête d'Hudson Edouard. Ça fait 2-0, mais cette finale était celle des contrastes, un grand écart générationnel absolu de 25 ans précisément entre le capitaine niçois Dante, 42 ans, et le jeune Djibril Koulibaly, 17 ans à peine. Et c'est justement ce gamin qui a propulsé titulaire à la place de Morgan Sanson, qui va raviver la flamme azuréenne dans le temps additionnel de la première mi-temps, en reprenant victorieusement un corner de Jonathan Clauss. La seconde période sera celle des millimètres, qui décide du destin d'une saison, puisque la barre transversale va repousser la tête du niçois Antoine Mendy à l'heure de jeu, et puis le poteau qui va encore sauver les Lensois sur une tentative de Kevin Carlos en fin de match. La réussite du champion, dira-t-on, car contre le cours du jeu de ce deuxième acte, que les Niçois avaient réussi à prendre à leur compte. C'est donc le RC Lens qui porte à la 78e minute le coup de grâce sur une tête défaite malheureuse de Dante. Abdallah Sima fait parler toute sa finesse et scelle le score. 3-1. Score final, je sais pas si tu as regardé le match, Faustin, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant de savoir déjà cette première statistique qui est que Lens n'avait pas gagné de Coupe de France dans son histoire.
Ah ouais, c'est fou. Et puis on voit bien la ferveur ensuite des supporters et même pendant le match. Les supporters qui s'étaient déplacés en nombre, qui faisaient du bruit dans le Stade de France. C'était impressionnant. On voit que là-bas, le foot, c'est une institution et qu'il manquait un peu, il manquait ça au palmarès du Racing Club de Lens. Et c'est pas démérité au vu de cette finale. On a quand même eu un beau match, ouais. De ce que je comprends, et contrairement à ce dont on pouvait s'attendre, parce que Nice aurait pu jouer petit bras. Pour éviter de prêcher pour les barrages de Ligue 1 dont on parlera juste après. Mais ouais, on a eu un beau match entre le 2e et le 18e de Ligue 1 et le 16e. Ouais. Oui, 16e barrage, évidemment. Donc ouais, c'était assez inattendu, une belle finale de Coupe de France comme ça. En plus, une finale de Coupe de France sans le PSG, je sais pas, ça fait combien de temps que c'était pas arrivé, mais...
Alors après on a eu les Nantes Toulouse et Nantes Nice, ouais, justement, récemment, en fait. mais c'est vrai que ça reste assez rare,
voilà, c'est assez rare pour le souligner, donc ça fait plaisir de voir cette Coupe de France partir du côté de Lens. Puis moi, l'image que je retiens, c'est surtout le bus lensois, l'équipe de Lens qui arrive à Bollaert à 4h du mat,
c'est ça, ouais.
Et le stade est quand même plein à craquer, fumigène, tout ce que tu veux. Ouais, ça devait être la fête en ville, j'ose même pas imaginer.
À mon avis, ça a duré tout le week-end, je pense.
Oui, c'est sûr.
Jusqu'à même mardi, enfin lundi, du coup, parce que c'était férié lundi.
Ouais, oui, tout à fait.
Donc, la fête.
En fait, c'est le maire de Lens, j'ai vu, qui a annoncé.
Un jour férié,
le 22 mai, jour férié pour la ville.
Incroyable.
Magnifique.
Normal, tout à fait normal pour une première victoire comme ça. Mais c'est vrai que, du coup, sur le match, effectivement, sur le fond, c'est vrai qu'on s'attendait pas à un match aussi serré avec autant de tensions, alors qu'a bien été aidé quand même par ce but de Koulibaly juste avant la pause. Quand même, à un moment où Lens, quand même, dominait pas mal, surtout dans cette première mi-temps. Mais c'est vrai que moi, en fait, cette équipe de Lens, mais même le jeu de Pierre Sage de base, moi, me fait extrêmement plaisir, parce que on rappelle quand même.
J'imagine bien.
Ah, forcément. Non, mais bien sûr. Mais au-delà de ça, sur la symbolique que c'est, quoi. C'est-à-dire que c'est un coach qui est pas sorti d'une grande institution du football, qui a pas été l'adjoint. Enfin, il a été l'adjoint, même avec tout le respect que j'ai quand même, mais ça a été l'adjoint d'Abid Bey et au Red Star. Ouais. C'est pas un mec qui a grandi avec les plus grands et tout. Il a quand même, bien sûr, été à l'OL, directeur du centre de formation. Mais je veux dire, il a pas de grandes études. C'est un mec qui part de lui et de son canapé.
C'est lui-même, ouais.
C'est ça. Et au final, il arrive quand même à te faire un jeu qui est beaucoup plus plaisant que des mecs comme Arteta. Alors après, je caricature, forcément, mais comme Arteta, qui a été quand même l'adjoint de Guardiola, qui a une grande carrière de footballeur et tout. Et là, avec cette équipe de Lens, il arrive quand même, malheureusement, la dernière journée de Ligue 1, à venir avec une équipe B, à mettre 4-0 à Lyon, avec un jeu qui est hyper plaisant et hyper facile. Là, en Coupe de France, il fait la même chose. Et à 2-1, alors qu'ils sont menés, qu'ils reviennent, et que justement, en début de second acte, il y a cette équipe de Nice qui revient bien, qui revient avec des belles intentions, une envie et tout. Il arrive quand même à donner encore plus d'envie à ses joueurs, et c'est ce qui amène le troisième but. Donc, je trouve ça remarquable, hein. Il y a même une action, alors je sais plus. Je crois que c'est Thomasson qui la met sur le petit filet, mais justement, où tu vois, genre 3-4 Lensois qui sont sur les Niçois. Donc en fait, c'est très dangereux, ça, de faire ça dans le football. Et il arrive quand même à avoir quelqu'un qui arrive à récupérer la balle. Je trouve que cette équipe, elle est impressionnante, pleine de confiance. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera la saison prochaine.
Et puis on peut parler de Flotovin aussi, qui a fait une saison tout à fait remarquable, qui a remporté désormais plus de titres avec Lens qu'avec Marseille.
J'aime bien ce que tu racontes, ça me fait plaisir.
Voilà, c'est des stats comme ça qui font un peu bizarre à entendre, même quand on sait la part de Flotovin, et qui réalise une saison remarquable pour son retour en Ligue 1.
Mais tous, Saint-Maximin.
Oui, c'est vrai.
Voilà, enfin, Udol, le mec. Moi, Udol, il aurait été en équipe de France, on va en parler tout à l'heure, mais ça m'aurait pas choqué du tout. C'est tous, mais oui, Thauvin, c'est quand même impressionnant. Alors c'est à nuancer quand même, moi je trouve, parce que quand on se fait éliminer au tir au but là de Coupe de France, il fait quand même la célébration de Rémi Imbert, alors que Rémi Imbert, il a 17 ans, il se fait un peu kiffer. Mais bon, voilà, c'est resté en travers de la gorge, mais élimination méritée.
C'est l'ego de l'ancien, on peut le comprendre.
Exactement, ouais, j'avoue. calme-toi, mais effectivement très content pour Thauvin quand même.
Ouais, voilà.
Et puis du coup, bah, content pour Lens aussi, forcément, puisque l'armoire à trophées s'ouvre enfin, donc pour la fameuse Coupe de France qui vient rejoindre le championnat de 98 et la Coupe de la Ligue de 99. C'est le point d'orgue d'une saison assez bluffante qu'on promettait moins légendaire, et pourtant. Et puis pour Nice, donc en revanche, pas le temps de penser les plaies, puisque l'ivresse de la finale laissera finalement place à l'urgence absolue de la survie, et ce dès ce soir, puisque le Gym ira défier l'AS Saint-Étienne dans le chaudron de Geoffroy Guichard avant un match retour à huis clos à l'Allianz Riviera la semaine prochaine. Un barrage donc de la peur, de la Ligue 1 à la Ligue 2. Il faudra vite oublier les lumières du Stade de France pour plonger dans l'enfer du maintien. Alors, qui est favori, Faustin, pour toi, de cette double confrontation? Je trouve que c'est difficile à dire.
Ouais, moi, je vois quand même plus Saint-Etienne. Souvent, voilà, celui qui doit monter, à mon sens, favori par rapport à celui qui doit descendre, parce qu'il y a cette euphorie d'une saison qui s'est bien passée, d'une dynamique lancée, d'une équipe qui marche bien, alors que dans l'autre sens, surtout à Nice cette année, on l'a senti, une équipe qui marche pas bien, une mauvaise dynamique. En plus, là, tu sors d'une finale perdue, ça peut jouer sur le moral aussi, un peu comme Reims, c'était la saison dernière, je crois, voilà, qui avait perdu la finale de Coupe de France, qui avait perdu le barrage par la suite.
Avec Ivan Diouf qui joue à Nice là cette année.
Ouais, c'était ça.
Un noir.
Donc ouais, je vois plus Saint-Étienne favori par l'effervescence aussi des supporters stéphanois qui sont quand même plus virevoltant que les Niçois, on va dire.
Bah oui, puis du coup, le match retour en plus sera à huis clos, donc bah c'est vrai, donc, que bon, là, c'est
ça,
le jour et la nuit, quoi.
Voilà, Nice n'a pas trop cet avantage-là, donc pour ça, je mettrais plus Saint-Etienne favori, parce que dans le jeu, ça se vaut, mais ce genre de match, c'est des matchs très importants qui vont jouer dans la tête, surtout.
Moi, je nuancerais peut-être un peu plus sur la question des dynamiques, quand même, parce que même si Nice l'a fait une saison, genre, dégueu, ouais, franchement, qu'on se le dise. Je trouve que ce match en Coupe de France, il est quand même, c'est plutôt une belle chose en fait,
ouais,
parce qu'ils sont pas fait écraser par une équipe de Lens qui avait l'équipe type, qui a avec son équipe B mis 4-0 à l'OL genre une semaine avant. Enfin voilà, c'est-à-dire que on n'était pas sur un jeu horrible. Alors il y a énormément de faiblesses dans cette équipe. Et puis Saint-Etienne aussi. Alors certes c'est troisième, mais c'est quand même le plus gros budget de Ligue 2.
Oui.
C'est une saison décevante de se retrouver en play-off. Et surtout en play-off, donc ils battent Rodez, mais ils les battent au tir au but. Ils font 0-0 ouais, avant, donc sur une rencontre assez triste. Donc à voir si du coup cette équipe de Saint-Etienne aura les totales ressources pour aller chercher sur une double confrontation quand même une équipe qui a presque été taillée pour l'Europe quand même,
ouais,
même si abandonnée par Ineos, etc. Mais c'est quand même une équipe qui a des joueurs taillés pour l'Europe. Hein. Je pense à des mecs comme Ali Chou, voilà. Enfin, c'est quand même un truc de fou de se dire Mohamed Ali Chou va jouer.
Déjà en Ligue 2.
Voilà. Enfin, ouais. C'est... Non. Donc, puis Nice a absolument pas la volonté de descendre, je pense. Donc, à voir. En vrai, sur une double confrontation, c'est dur à prédire. Même si je trouve que ce serait totalement mérité pour le projet niçois,
ouais,
de descendre en Ligue 2. Après, est-ce que c'est pareil si Nice descend en Ligue 2? Est-ce que les propriétaires, ils se disent pas, on lâche totalement le club? Et après, c'est dangereux aussi, donc à voir, effectivement. Je sais pas si t'as un pronostic en tête, au moins peut-être pour ce soir, quand même.
Ce soir, j'ai envie de dire un 2-1 pour Saint-Etienne.
Ouais.
Voilà. Sans grande conviction non plus, mais... Mais une victoire de Saint-Etienne en tout cas.
Ok, bon, moi je pense que je vois la même chose ce soir, poussé par leur public. Alors après c'est pareil, s'ils gagnent pas ce soir, je pense que Saint-Etienne passera pas, je pense.
Ouais.
À moins d'un, je sais pas, un sursaut comme ça.
Ouais, faudra que quelque chose apporte dans le jeu. C'est comme il y aura pas, ce sera à huis clos, il y aura pas une ferveur du stade qui pourra les transcender et les pousser à faire un exploit. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Ouais, et puis ça veut dire qu'en plus t'as pas réussi à faire la différence devant ton public, face à une équipe qui vient de perdre une finale de Coupe de France aussi, donc
ouais, le contexte sera compliqué.
C'est ça, exactement. Mais en tout cas, c'est ce soir, donc 20h45. Je crois.
Tout à fait. Donc on suivra ça peut-être s'il y a un but dans les 15 premières minutes, on pourra l'annoncer en direct.
Exactement. S'il y a un 3-0 pour Nice, on se dira bon bah là, on s'est bien planté.
bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Ça va très vite dans le football. On verra ce que ça va donner. Je te propose de passer à la pause musicale avant de continuer avec le reste des actualités nationales et internationales. Et on va s'écouter du Luther. Ce sera Journal de Quête tout de suite sur le 101.5 FM.
J'ai encore plus trop ma confiance. Un sourire, c'est pas ce que ça cache. On vient prendre la température de 3 snaps et on s'arrache. Quand je les vois, moi je me la raque. TMTC, qu'on se refait pas. Elle était moche ma vie quand on traînait le soir et qu'on se levait pas. J'ai du zèle pour les mauvaises choses. La para, c'est 5 ans et avec elle, rendez-moi mon temps. J'ai trop la rage pour essuyer ma peine. J'ai quelques lingettes qui traînent. La flemme de passer le permis, je restais avec la plaquette qui freine. Oh là là, fallait voir ma tronche quand j'ai fait mes premières tunes. J'ai pris un dîme, j'suis une paire de baskets, j'ai adopté nouvelle attitude. J'suis passé de squat et le vieux banc à tartifume. À me faire CUS par des népos, des bourgeois avec des noms à particules.
Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds. Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds.
Kid, j'trouvais pas grand chose d'archi lourd. Seul, ma mère m'a acheté mon PC, c'était archi lourd. Sun, kill sur kill. J'ai une enfance digitale, je me canne devant l'ordi avec mes digiballes. Faire le bien ça fait sentir mal. Je veux bien prendre 20, 50, 100 cachés Bolloré, mais je me trouverais quand même honorable, pas me sentir honoré. Tout est gris, rien n'est coloré. Qu'est-ce qu'on se fait chier sa mère? C'est souvent du toc si les rêves qu'on te propose sont trop dorés. Porter le poids du vide, ça te donne un mal de dos. Ça me fait mal au cocher, c'est qui le mec qui chiale dans le studio? Même quand fait beau, j'irai porter des habits chauds. J'aimais déjà pas la lumière, déjà petit je me cachais sur les vidéos.
Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds. Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds.
Pas à parler.
Et voilà, c'était Journal de Quête de Luther sur le 100.5 FM de Radio G ou bien sur le site www.radio-g.fr. On est reparti pour cette deuxième partie d'émission et on va commencer sans plus tarder avec cette liste de l'équipe de France qui nous attend pour la Coupe du Monde 2026 que l'on attend tous évidemment avec impatience, j'imagine. Voilà, on rappelle le groupe de la France, donc Sénégal, ouais. Irak, Norvège.
Et Norvège, ouais, c'est ça.
C'est ça. Voilà, donc avec un match, le premier match le 16 juin contre le Sénégal, il me semble, pour ouvrir ce championnat. Donc je vais rapidement donner la liste. On dira ce qu'on en pense, peut-être les absents notamment, et on essaiera de faire une équipe titulaire, même si c'est assez compliqué avec cette attaque très très chargée. On va commencer au but avec Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser. En défense, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas et Théo Hernandez, Konaté, Upamecano, Saliba, Koundé et Maxence Lacroix. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Zaïre Emery. En attaque, Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise et enfin Lilian Thuram, j'allais dire non, Marcus Thuram plutôt, c'est mieux, c'est plus d'époque. Toi, ton grand absent, je te laisse le dire.
Corentin Tolisso.
Évidemment, au milieu de terrain. Tu l'aurais mis à la place de qui?
Moi, je pense que j'aurais enlevé un attaquant.
Ok.
Quand même, parce que c'est quand même une attaque remplie d'ego aussi, un peu. Donc, c'est des mecs que tu vas pas forcément sortir tout le temps. Aussi, je trouve que, par exemple, avoir des profils comme Mateta et Thuram, ils sont pas forcément les mêmes profils, mais bon, plus ou moins, ils jouent les mêmes rôles sur le terrain, ensemble sur le banc. Je trouve ça un peu dommage. En fait, tu te prives d'une place. Après, je trouve, si je devais enlever des milieux de terrain, il y en a deux que je mettrais en dessous. Minimum de Tolisso.
Ouais.
Le premier, c'est évidemment Kanté, qui est revenu en Europe, mais qui est toujours au Fenerbahçe. Alors, ouais. Fenerbahçe qui fait une belle saison et tout, il n'y a rien à dire, même s'ils ne sont pas champions. Mais je pense que Kanté, c'est bien pour le capital sympathie, pour l'équipe, etc.
Pour le groupe.
Je suis pas sûr aujourd'hui qu'il ait le niveau forcément pour une Coupe du Monde et en plus pour apporter une fraîcheur, etc. Je pense moi ça me fait un peu chier parce que ça semble être un peu la solution de facilité des champs du genre. Alors déjà, je prends un mec que je connais.
Ouais.
Et puis du genre, je sais pas, si on galère dans une fin de match face à l'Allemagne, par exemple, en demi-finale, je fais rentrer Kanté, il va me verrouiller le milieu de terrain, on va rester à 1-0, quoi. Et du coup, ça m'embête un peu. Puis au-delà de ça, alors je sais qu'il fait une belle saison avec le Milan AC, il y a pas de souci et tout, mais moi, Rabiot, enfin, je pense que Tolisso va plus apporter dans cette équipe que Rabiot aussi. Donc pour moi, c'est un peu le gros point négatif quand même. Alors après, il a avancé des points intéressants. Il a dit que déjà premièrement, il allait pas s'entourer de joueurs avec qui il a pas bossé la préparation.
Ouais.
Ce qui est logique, mais bon, c'est à lui de bosser mieux sa préparation aussi.
Là, ouais.
Et puis au-delà de ça, il parlait des joueurs qui du coup ne seraient pas titulaires. Il fallait faire des choix pour avoir des meilleurs joueurs sur le banc. Ça se tient aussi. Mais je pense que voilà, je pense pas que Tolisso aurait fait la gueule d'être sur le banc. Bien au contraire, pense que
tu participes à une Coupe du Monde comme ça avec une chance de remporter.
Bah, et puis il l'a déjà fait en plus sur le banc.
Oui,
donc,
tout à fait.
Non. Et puis maintenant, il est, enfin, c'est un joueur très mature aujourd'hui. Mmh. Tolisso qui a une force dans son jeu de vestiaire aussi. Donc
c'est un joueur d'expérience.
Ouais, exactement. Donc je trouve ça assez honteux, sachant que c'est le milieu de terrain le plus prolifique de Ligue 1. Français partout. Moi, je trouve ça assez fou, quoi.
Ouais, une saison accomplie. Il l'avait dit dans des interviews. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être sélectionné. Maintenant, ce sera au sélectionneur de choisir.
Bah, c'est ça.
Malheureusement, il l'a choisi en sa défaveur. Mais voilà, en notre absent, qui reviennent beaucoup dans les médias, surtout on compte Chevalier au but, qui était préféré à, enfin, Robin Risser, qui était préféré à Chevalier. Ce qui est assez logique, hein, Chevalier qui ne joue plus, qui a perdu sa place de titulaire contre Safonov au PSG, qui s'est perdu quand même dans cette saison Ligue 1, qui avait du mal, contrairement à Safonov justement, et Robin Risser qui a fait une très bonne saison aussi. Donc ici, on le souligne en absent, mais finalement c'est assez justifié.
Oui, c'est un absent parce que c'est son nom, quoi. Enfin,
c'est ça.
Chevalier qui arrive au PSG cette année, ça doit être la saison où il prend la place de Maignan et tout, mais...
Non.
Voilà, pas du tout, quoi.
Malheureusement pour lui, ça ne l'a pas fait. Camavinga aussi, dans les absents, pareil, une
logique.
Saison, un nom qu'on avait l'habitude de voir en équipe de France, mais finalement une saison pas aboutie. Du coup, pas de sélection en équipe de France, préféré, pareil, un peu comme Tolisso, à des N'Golo Kanté, à des Rabiot, des Manu Koné.
J'aurais peut-être pris quand même plus que Kanté encore, mais c'est pareil, si vraiment on a envie d'avoir une certitude sur un joueur qui peut performer de telle manière à un instant T, effectivement, Kanté, c'est plus logique, quoi.
Voilà. Et enfin, Randal Kolo Muani. Qui a lui été préféré par Didier Deschamps, Mateta, pardon, cherchez mes mots, mais voilà, là aussi, choix compréhensible, pas une grande saison de
un but en PL,
voilà, c'est ça,
quand même assez terrible.
Du côté de Tottenham qui fait là non plus pas une très bonne saison, qui se sauve sur la fin, mais qui a eu la relégation qui lui pendait au nez pendant un certain temps. Donc une liste quand même assez cohérente au vu de ce qu'on a vu cette saison.
Oui, logique, surtout offensivement. Enfin, l'armada offensive qu'on va voir, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que moi, la place de Mateta, j'aurais mis le Paul. Enfin, honnêtement. Oui, pour le récompenser. Et puis, parce que. Alors après, de manière individuelle, je sais pas effectivement s'il aurait pu plus apporter, mais il a la confiance. Je pense que c'est un mec, sur certaines fins de match, tu le fais rentrer, il t'apporte plus que Mateta, je pense. Donc après, sur le côté individuel, effectivement, que Mateta, je pense que c'est un meilleur joueur.
Il dit peut-être que en Coupe du Monde comme ça, peut-être que Didier Deschamps a voulu prendre son temps. Enfin, ce sera sûrement pas Didier Deschamps qui le sélectionnera après la Coupe du Monde. Mais ouais, moi je le vois plus comme ça, comme éviter de faire une erreur, de le faire entrer, qu'il fasse une erreur d'un manque d'expérience, une erreur de jeunesse, et privilégier un bon vieux briscard comme Mateta.
Oui. Mais là-dessus, oui, c'est sûr. Après, Mateta, c'est pareil, ça fait pas longtemps qu'il est en équipe de France.
Ouais, mais il a plus quand même d'expérience,
c'est vrai. Mais après, c'est pareil, dans ces cas-là, tu dois aller chercher le Paul presque à la mi-saison, quand vraiment il devient très fort, à Rennes et tout. Donc, c'est pareil.
Le problème n'est pas dans la liste actuelle, plus dans la préparation.
C'est ça. C'est que Deschamps, il a toujours plus ou moins, je trouve, un peu mal préparé ses compétitions. Alors, ça a toujours réussi à la France, qui avait aussi un vivier énorme. Hein, donc, pas non plus à mettre que sous la qualité de management et tout, même si ça reste un très bon sélectionneur, je pense. Mais c'est vrai que, voilà, il a jamais. Il a pas été connu non plus pour se dire ce mec-là c'est un bon crack et tout, je vais aller le chercher, il a fait sa perce machin, donc
c'est ça.
C'est un style.
Ouais, ça a fonctionné.
Bah oui, bien sûr.
Évidemment, on est ravis. Je vais te laisser maintenant essayer de faire un 11 avec tous ces 26 joueurs voilà, en aimant par le gardien, en finissant par le plus compliqué, l'attaque. Quelles attaquants tu vas nous aligner? Quel dispositif vas-tu faire?
Bah moi, je vais pas être très novateur. Je vais aller en 4-3-3. Franchement, avec 2-8, un milieu offensif. Et puis du coup deux ailiers, un buteur, deux défenseurs centraux, deux latéraux et puis un gardien. En gardien, je pense que je vais commencer forcément le premier match avec Mike Maignan, ce qui est un peu obligatoire. Après moi j'aimerais bien voir du coup Robin Risser contre l'Irak.
Ouais, je suis plutôt d'accord.
En deuxième match.
Sa première sélection aussi, Robin Risser.
Oui. Ouais, carrément. Ouais. Donc voir ce que effectivement après là ce qu'il a montré en finale de Coupe de France, enfin c'est. Il est très serein quand même, Robin Risser, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et puis après, pourquoi pas le garder titulaire sur toute la fin de la saison, enfin de la Coupe du Monde, pardon.
Ouais,
on verra. Ensuite, au niveau des défenseurs à gauche, Melu Kadigne, que je préfère, et puis qui joue encore en Première Ligue, ce qui n'est pas le cas de Théo Hernandez, donc enfin qui a jamais joué en Première Ligue, hein, mais c'est dire qu'il joue encore dans un des cinq championnats majeurs. Ensuite, en défense centrale, je mettrais Saliba et Upamecano, quand même. Saliba, peut-être l'un des meilleurs défenseurs du monde, Upamecano aussi.
Ouais, tout à fait.
Donc, logique. À droite, je pense que je mettrais... Alors, ça dépend des dispositifs, quand même. J'aimerais bien voir Malo Gusto titulaire.
Okay.
Je suis pas fan de Koundé... Koundé en équipe de France.
Ok.
J'aime beaucoup Koundé au Barça, hein, mais Koundé en équipe de France.
C'est moins ça.
À voir ce que ça peut donner, mais c'est pareil, c'est que Gusto est très offensif, plus offensif que Koundé quand même. Donc après, il faut voir en termes d'équilibre. Parce que derrière, au milieu de terrain, je mets Tchouaméni, Koné, qui sont pas des ratisseurs pure souche, mais en même temps, on n'a pas vraiment de ratisseurs pure souche si ce n'est Kanté. Donc je préfère avoir un choix de jeunesse, de fraîcheur, etc. En 10, je mets évidemment Ryan Cherki, le meilleur joueur français, avec pas du tout objectif. Je mets évidemment Cherki qui sort d'une grande saison. On va avoir besoin d'un créateur qu'on n'a pas en équipe de France depuis quand même pas mal de temps.
Ouais, c'est clair.
Pour briser les lignes, essayer aussi forcément d'attirer cette armada offensive, assez impressionnante, quoi. Devant, je mets Olise, Mbappé et Dembélé en faux neuf. Donc des joueurs de vitesse. Alors moi pour Olise, mais Olise ça peut servir aussi de point de fixation pour Cherki derrière.
De la bonne technique quand même.
Carrément. Donc c'est
du bagage.
Exactement. Donc voilà, dans tous les cas, il y a moyen de se montrer hyper dangereux avec ces quatre offensifs là. Mais derrière, il va falloir être sûr de notre capacité de marquer. Sinon derrière, ça va pas fonctionner défensivement, je pense.
Ok.
Et toi?
Ça me paraît être un beau 11. Moi, je vais peut-être être un peu moins nuancé. Je vais joueur par joueur. Ok. Je pense que c'est quand même Mike Maignan qui va faire la grande part de cette Coupe du Monde. En défense, je suis totalement d'accord avec toi avec Digne à gauche, les centraux, Upamecano, Saliba. Et je pense que Koundé sera quand même préféré à droite. Sauf si blessure, on pourrait même voir Zaïre Emery,
qui a fait
des très bons matchs à droite avec le PSG. Qui pourrait dépanner si on a deux joueurs un peu qui fonctionnent mal, donc à voir. Après au milieu de terrain, je suis plutôt d'accord sur le Manu Koné Tchouaméni. Je vois même Kanté pour démarrer des matchs à la place de Manu Koné.
Ouais,
ça se fait parce que voilà, Manu Koné parfois un manque d'expérience qui peut faire peur, surtout à Didier Deschamps, avec ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc Kanté peut démarrer des matchs aussi. En 10, je verrais plus Olise.
Tu mets Cherki à droite du coup.
Je mets, t'inquiète, il arrive fort et à droite du banc, mais
super au niveau des bouteilles.
C'est ça. Et puis sinon sur le trio d'attaque, pareil, c'est des choses qui vont bouger tout au long du championnat. C'est ça la force de l'équipe de France, c'est qu'on n'aura pas un trio d'attaque qui sera fixe, même un quatuor d'attaque, c'est avec Olise qui sera beaucoup plus offensif, mais sûrement un Dembélé, Mbappé qui sont intouchables quand même, et peut-être Doué, Barcola qui peuvent s'échanger des places de titulaire assez régulièrement, je pense.
Ouais, bah Doué ça se tient. Après il a quand même, alors c'est pas les mêmes joueurs non plus, mais c'est quand même plus ou moins la même manière de fonctionner que un Olise.
Tout à fait.
Donc
ouais.
Ce qui est moins le cas d'un Olise Cherki. Ou justement, je pense que, mais effectivement, pourquoi pas.
Voilà, c'est. Enfin, de toute façon, en attaque, je pense que on peut s'attendre à tout. Tout sera bien. C'était le deuxième match, donc match amical aux États-Unis contre la Colombie, où c'était entre guillemets une équipe B, où t'avais des Akliouch qui a fait un match de fou, Cherki aussi.
Dommage qu'on n'ait pas Ekitike, quoi. Ça aussi,
c'est clair.
Après, on a le goût du luxe, mais.
Ekitike, il aurait pris la place de Mateta sans doute.
Oui, c'est ça, ouais, carrément. Ouais, je pense que dans la tête de Deschamps, c'était ça.
Un bon neuf en plus. Ça aurait été vraiment magistral, mais déjà là, c'est excellent. Et c'est justement cette pluralité, j'ai envie de dire, d'effectifs offensifs qui va plaire au monde entier et qui va, j'espère, nous ramener une troisième Coupe du Monde.
Ce serait beau.
France 2026.
Bon caviar, en tout cas.
Ouais, c'est ça. On y pense. Et on va voir ce que ça va donner. Une autre compétition française, c'est Roland Garros, évidemment, qui n'est pas la spécialité des Français cette fois, mais on a quand même qui s'en sortent. On a eu Yael Monfils. Il y a de ça quelques années, qui était très performant. Et hier soir, c'était son dernier match à Roland-Garros. Il s'est incliné en 5-7 malheureusement contre le Français, donc Hugo Gaston. On y a cru parce qu'il était mené d'abord 2-7-0, puis est revenu à 2-2. Malheureusement, un 6-0 dans le dernier set a eu raison de lui. Et il tire ainsi sa révérence à ce monument du tennis et à son public français. On se demande maintenant qui sont les Français qualifiés pour le deuxième tour de Roland-Garros. On a d'abord Valentin Royer qui s'est imposé en 3-7. Quentin Alice en 3-7 aussi. Hugo Gaston en 5-7 contre Monfils. Hugo Humbert, tombeur du Français Manarino en 3-7. Arthur Rinderknecht en 3-7 aussi. Moïse Kouamé en 3-7 encore une fois. Et on attend le résultat ce soir de Clément Tabur qui joue contre un certain Yannick Sinner. Voilà, on donne pas cher de sa peau, mais on sait jamais.
Non, on croit en notre angevin, quand même.
Évidemment, on voilà. y croit. Un 7, ce serait déjà fou. Hein.
Ouais, franchement, ouais.
Voilà, on est bien d'accord. Hein. Même accrocher un tie-break, ce serait...
Ouais.
Voilà.
Non, franchement, il avait dit que en plus, le mec qui voulait absolument pas tomber, c'était Sinner, et il tombe sur Sinner.
Voilà, pas de bol. Bon, c'est les lois du tirage. Tu voulais peut-être dire un mot sur Moïse Kouamé?
Ouais, parce que Moïse Kouamé quand même qui a quand même gagné un ancien top 3 mondial, 46e aujourd'hui quand même, alors qu'il était en dehors du top. Je parle de Kouamé, hein, du top 800. Ouais. Il y a même pas un an, je crois. Hein,
J'ai pas les stats, mais ouais.
Enfin, c'est impressionnant quand même. À 17 ans, ça a été un des plus jeunes vainqueurs sur Master 1000 depuis Nadal quand même. Donc non, il continue sa montée en puissance. Je sais pas jusqu'où il peut aller là aujourd'hui.
Ouais.
Quand même, mais c'est vrai que là on a quand même une nouvelle génération qui arrive. Ça fait du bien aussi pour le tennis français qui avait une génération 2006-2007 pas non plus énorme,
non.
Un gros vivier. Les 2009 arrivent en force, en puissance, donc c'est très très cool. Et puis en 3-7, c'est impronosticable.
Ouais, c'est clair, c'était vraiment un match de fou. Il a fait rêver un grand nombre d'entre nous. Un autre espoir du tennis français qui lui n'a pas pu jouer, c'est Arthur Fils.
Ouais.
Qui s'est donc blessé à nouveau alors qu'il devait affronter Stan Wawrinka. Voilà, blessé à la hanche, il n'a pas voulu prendre le risque de rejouer. C'était au tournoi de Rome, il me semble, qu'il s'était blessé, qui était sorti sur blessure. Voilà, parce que on s'en rappelle, l'année dernière, il s'était gravement blessé. C'est une rupture.
C'était long, quoi.
Ouais, c'était un souk du dos, voilà, qui fait pas plaisir à entendre, et c'était surtout à force de jouer, à force d'être fatigue, qui s'était blessé. Du côté des femmes, on ne retrouvera que Elsa Jacquemot, tombeuse en décès de Linda Vrouvirtova. Voilà, Loïse Boisson, qui, on s'en rappelle, était allée en demi-finale, l'année dernière, de Roland Garros, s'est inclinée dans la journée 6-2-6-2 contre Anna Kalinskaya. Voilà, est-ce que ça entache, ça tâche un peu l'image de Loïse Boisson comme un espoir du tennis français féminin?
Bah, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me rappelle à la fin de Roland Garros l'année dernière, il y avait beaucoup de gens qui lui tombaient dessus quand même en disant ah, la chance. Ouais. Il y en a qui parlaient de dopage, de machin, de trucs, mais des bêtises. Hein, c'était quand même assez impressionnant de voir Loïse Boisson à ce niveau-là. Et puis derrière, effectivement, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'avec les blessures, le manque de confiance qui lui faisait déjà défaut avant du coup cette demi-finale de Roland Garros, elle est retombée presque comme à ce moment-là, quoi, comme en 2024, avant. Et c'est plutôt dommage parce que ça donne raison en partie à des abrutis. Et en même temps, ça nous empêche effectivement d'avoir un potentiel.
De croire pleinement à cet espoir français.
Exactement, ce qui est dommage quand même. Je veux dire, là, elle va perdre 120 places au classement.
Bah, c'est dur.
Au final, je sais pas si jamais, mettons, l'année prochaine, elle est repas là, l'année d'après, elle est repas là, est-ce qu'elle aura des invites à Roland-Garros? Bon, il y a quand même beaucoup de questions à ce niveau-là. C'est dommage. Maintenant, elle a montré qu'elle savait aussi rebondir dans les pires périodes.
Tout à fait.
Donc on va continuer de croire en elle, forcément.
Évidemment, on va suivre en espérant que cette élimination au premier tour ne sera qu'anecdotique par la suite, qu'elle va réussir à s'en remettre, à passer à autre chose assez vite et enchaîner sur la suite de la saison avec l'herbe qui arrive très prochainement. Elle n'avait pas participé à Wimbledon l'année dernière. Elle avait demandé une wildcard, elle ne l'avait pas eu. J'imagine qu'elle le fait cette saison. S'il n'y a pas de blessure qui arrive entre temps.
De la continuité.
Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'on lui souhaite, de la régularité, de la continuité pour aller chercher le plus haut niveau mondial. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique, se diriger vers les États-Unis et parler de NBA maintenant avec une information qui va faire plaisir à Paulin, parce que les Knicks sortent les Cavs ultra facilement avec un 4-0 net, précis et sans bavure. Ça a commencé avec une remontada de 22 points dans le dernier quart-temps lors du Game 1, un match qui a dû peser sur le moral des joueurs de Kenny Atkinson, car les Cavs n'ont jamais vraiment montré de concurrence aux Knicks, qui éliminent pour la deuxième fois d'affilée une équipe avec un sweep, et ils sont ainsi sur 11 victoires d'affilée en play-off. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant, remarquable, parce qu'ils perdaient donc 2-1 contre les Hawks, ils sont remontés 4-2, après 4-0 contre Philadelphie, 4-0 contre les Cavs, et là, on ne sait pas contre qui ils joueront. Évidemment, en finale, ça arrive après, mais parce que ça faisait depuis 1999 qu'on n'avait pas vu les Knicks en finale NBA. New York, une ville de basketball. Le Madison Square Garden qui était comme un seul homme pendant ces deux premiers matchs à domicile, et qui, j'imagine, va l'être pendant les matchs 3 et 4 des finales NBA, avec on s'attend une ribambelle de stars, évidemment, comme on a l'habitude dans cette entre du basket. Donc ouais, ça va être de très beaux matchs, une très belle finale, si les Knicks continuent à proposer le niveau de jeu qu'ils montrent en ce moment. Mais maintenant, il faut donc connaître l'adversaire de ces Knicks, et c'est l'affrontement entre les Spurs et le Thunder qui nous donnera ce finaliste. Pour beaucoup, c'est la finale avant l'heure, ce Spurs-Thunder, et cet affrontement nous offre tout ce que l'on attendait. Après la double prolongation du premier match remporté par les Spurs, OKC a répondu en remportant les deux matchs suivants, et c'est ensuite les Spurs qui ont pris le meilleur sur les joueurs d'Oklahoma lors du match 4, 2-2 donc à l'issue des quatre premiers matchs. Il va falloir attendre au moins deux matchs pour savoir qui ira en finale, en espérant attendre même un troisième match pour assister à un Game 7 d'anthologie entre SGA et Victor Wembanyama. Toi qui essaye de suivre un peu. De plus ou moins loin ces finales de conférence NBA, qu'est-ce que tu penses peut-être de Victor Wembanyama? C'est ce qui me paraît le plus évident.
Ah, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant dans tous les cas. Là, le dernier match qu'il a fait, c'était quand même quelque chose, avec notamment l'image forcément, c'est ce tir du milieu de terrain. Forcément, enfin, tu dis, vas-y. Il est chiant.
Oui, ça.
Mais non. Sinon, ouais, c'est effectivement. Alors, dans le jeu, moi, j'ai l'impression que c'est effectivement une finale avant l'heure. C'est énormément d'intensité. Peut-être que du coup, le point de bascule, si jamais les Spurs vont pas jusqu'au bout et sortent pas le Thunder, c'est peut-être ce match 3 quand même, où ils commencent avec 15 points d'avance, derrière ils se font rejoindre dès le deuxième quart-temps. Donc ça va peut-être être ça la bascule, mais concrètement, moi j'ai envie de te poser la question: est-ce que les Knicks vont pouvoir réellement rivaliser face à l'une de ces deux équipes, au moins peut-être face aux Spurs, face aux Thunder? Ça paraît compliqué quand même.
Honnêtement, j'en ai pas l'impression. C'était un peu ce qu'on disait déjà depuis le début des playoffs. Ce sera forcément à l'Ouest que le vainqueur va se décider, parce que tout au long de la saison régulière, même quand tu regardais les bilans des équipes à la fin de la saison, tous les bilans des équipes de l'Ouest étaient plus élevés que ceux des équipes de l'Est. Et dans le jeu proposé, quand on avait des affrontements directs, l'Ouest était meilleur. Et là, évidemment, les Spurs et le Thunder qui finissent donc premier, deuxième, toutes conférences confondues, sont largement dominants. C'est ce qu'on voyait tout au long de la saison. Je crois que c'était ça la stat. Là, les Spurs, ils ont perdu deux matchs d'affilée, donc contre le Thunder, le match 2 et 3, c'était pas arrivé depuis janvier. Donc c'est impressionnant. Ça, il y a Shai qui a pas fait un match en dessous de 20 points de la saison. C'est pareil, c'est une stat hallucinante.
De LeBron finalement.
Ouais, de LeBron, même de Wade Chamberlain. Pour ça, je crois que c'est le seul à l'avoir fait. Wade Chamberlain avec Shai Alexander à pas faire un match en dessous de 20 points pendant toute une saison. Pour moi, ça va être très très compliqué pour les Knicks. Ce qui peut jouer en leur faveur, c'est qu'ils sont frais. Ils sortent de deux séries à 4-0, alors que là, les Spurs et le Thunder en laissent beaucoup dans la bataille. Il y a des joueurs qui se blessent régulièrement. Il y a eu De'Aaron Fox au début de la série, qui a rechuté, je crois, en plus. Il y a Jalen Williams du côté de Casey. Donc, il y a clairement une finale avant l'heure, honnêtement. C'est ce qui se dit, c'est ce qui a l'air de se dessiner quand même vachement. Mais on sait jamais, les Knicks peuvent faire l'exploit parce que pareil, ils ont un public quand même avec une grande ferveur, pas même si c'est le même cas pour les Spurs et le Thunder, c'est quand même assez fort. Pour les Knicks, c'est autre chose, c'est jouer au Madison Square Garden, c'est quelque chose à chaque fois. Donc ouais, attention à ces Knicks qui quand même montrent de très belles choses. Faudra pas les dénigrer, faudra pas les prendre à la légère pour ces finales. Mais de l'autre côté, ça paraît supérieur.
De toute façon, il y a cette, effectivement cette statistique que tu as donnée tout à l'heure de 11 victoires consécutives en play-off. Enfin, déjà, ça, c'est quand même une belle chose. Mais du coup, c'est aussi peut-être preuve d'un écart assez énorme entre l'Ouest et l'Est, effectivement. Genre vraiment énorme, parce que finir deux séries à 4-0...
Ouais, c'est rare. Enfin, surtout une finale de conférence. Ouais, les Cavs qui est sorti vraiment du beau jeu contre les Pistons. Et pourtant, là, ils sont vraiment effondrés. James Harden n'était pas au niveau.
Après, il n'a pas été au niveau non plus contre. Enfin, dans plusieurs matchs des Pistons. Après, il s'est toujours réveillé plus ou moins en fin de match sur les rencontres que j'ai pu voir.
Ouais, mais encore, mais c'était pas.
C'était vraiment, on va mettre.
C'était pas le James Harden qu'on attendait. C'était voilà, le James Harden qui pouvait perdre des balles assez régulièrement dans le match, qui avait une défense critiquable et qui avait pas l'impact qu'il aurait dû avoir. Moi, c'est ce que j'avais dit quand la série avait commencé entre les Cavs et les Knicks, bien sûr. Le facteur X allait être le niveau de jeu de James Harden et pas du tout au rendez-vous. Donc voilà, les Knicks, les Cavs se font sortir bêtement comme ça, 4-0. Puis ce match 1 aussi qui est dingue, quoi.
C'est fou, ouais.
Tu joues Madison Square Garden, mais tu mènes 22 points dans le dernier quart-temps. Tu arrives à te faire remonter, t'as le shoot de Lagan, tu le loupes. Et au final, tu te fais laminer en prolongation. Donc ouais, non, c'était vraiment terrible.
Ouais. On verra comment ça va se passer.
On verra ça.
On aimerait bien un petit match 7 quand même pour que Wembanyama puisse écrire sa légende jusqu'au bout.
Pour avoir le plus de matchs possible. De toute façon, ces deux équipes qui sont des régales à chaque fois. Peut-être aussi un point sur le côté de l'arbitrage, quand même, qui fait beaucoup, beaucoup parler quand on voit Hartenstein notamment, qui retient pas ses coups sur Victor Wembanyama, alors que le moindre petit contact sur un shoot de Shedjius Alexander est sifflé. Voilà, c'est des choses qui font parler, qui font beaucoup parler. Voilà, mais c'est quelque chose que finalement on voit souvent en NBA, j'ai envie de dire, avec les intérieurs qui se font un peu maltraiter, mais des fautes qui sont beaucoup moins sifflées que si elles existaient entre deux joueurs extérieurs. Donc voilà, ça reste assez discutable, ces fautes d'arbitrage.
Il y a des polémiques.
Voilà, il y a des choses à dire quand même, mais tout n'est pas normal non plus, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que tu as un petit prono, toi, pour cette finale NBA? Qui va passer entre le Thunder et les Spurs?
T'as
un avis ou pas?
J'aimerais forcément que ce soit les Spurs. Après, est-ce que... Parce que là, moi, j'aimerais me dire quand même que en NBA, la symbolique des titres, elle marche, j'ai l'impression. Et Wembanyama n'a pas eu cette année... Le mec se trompe carrément. il n'a pas eu cette année le titre de MVP.
C'est ça.
Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ait un échec cette année en finale de conférence pour que l'année prochaine ce soit fini et qu'après peut-être qu'on est parti pour
la dynastie. 4 années,
ou la dynastie. Ouais.
Ça, on verra ça. Ouais. Moi, c'est assez dur à dire, mais j'ai quand même envie de dire que les Spurs peuvent le faire. Voilà, parce qu'au vu de ce qui s'est passé sur la saison régulière, au vu des matchs là, ou match 4, où vraiment les Spurs ont été dominants de A à Z, je me dis qu'ils peuvent le faire.
Voilà. Et puis ils ont réussi à gagner des matchs aussi quand Wembanyama était pas là.
Sur la saison, mais dans les playoffs, c'est
dans les playoffs, ils l'ont perdu le match d'après.
Après le coup de coude, je sais plus. Il me semble que oui, mais surtout il y a des stats de Victor Wembanyama sur le terrain. Les Spurs sont en plus plus 19 peut-être en moyenne en points. Quand ils sont en dehors du terrain, ils sont que à plus 2, 3. Donc voilà, il y a un vrai impact de Victor Wembanyama sur le terrain ou non, qu'on n'avait pas en saison régulière, ce qui faisait la force des Spurs. Et là aussi, il y a quand même un gros bémol sur l'équipe à ce moment-là.
Donc, il y a un enjeu.
Voilà. Voilà pour la NBA. On va peut-être finir rapidement, là aussi, ce qui nous reste plus que 6 minutes, avec le Giro.
Je vais essayer de faire vite. Puisque donc cette semaine, c'est la troisième et dernière semaine donc du Giro, le Tour d'Italie, qui s'ouvrait aujourd'hui. Et si le suspense pour le maillot rose semble s'être évaporé, la course est loin d'avoir livré tous ses verdicts. Avant cette dernière étape, donc le patron du Giro, c'était prévisible, se nomme Jonas Vingegaard et personne ne semble en mesure de lui contester la victoire finale. Derrière le Danois, en revanche, c'est l'effervescence absolue si le Portugais Afonso Lalio pointe encore. Donc avant cette 16e étape, à la deuxième place, les suiveurs s'attendent à le voir reculé dès les premiers véritables pourcentages d'aujourd'hui. La bataille se joue donc entre 5 hommes qui se tiennent en moins de 2 minutes, donc encore une fois avant aujourd'hui, pour arracher les deux premières places au podium à Rome. Dans le sens, donc, avant de cette 16e étape, c'était 3e Félix Gall, 4e Tim Arensman, 5e Jane Lay, 6e Giulio Pellizzari et 7e Michael Storer. Tout cela donc se tient dans un véritable mouchoir de poche. C'est pourtant l'Autrichien Félix Gall qui reste le favori pour cette place de dauphin, conscient de l'impossibilité de rattraper Vingegaard. Il assume clairement sa stratégie défensive pour conserver sa place durement acquise, puisque c'est lui pour l'instant qui a été le seul à tenir tête sur cet incol au Danois de la Visma. Et vous allez voir, aujourd'hui, ça a encore été le cas. Derrière lui, on pourrait retrouver l'Australien Jane Lay, ancien vainqueur de l'épreuve. Il a l'expérience des troisièmes semaines et possède un atout tactique majeur en son coéquipier de Giulio Pellizzari. Et puis Tim Arensman reste pour l'instant devant le coureur de la Bora, totalement relancé par son contre-la-montre, mais il va devoir donc résister dans les enchaînements de cols. Et puis on termine avec Michael Storer, redoutable chasseur d'étapes, mais qui manque plutôt de référence sur 3 semaines avec de la haute montagne pour vraiment que l'on puisse réaliser quelconque pronostic suroptimiste. Alors avant de s'attaquer aux différentes difficultés du jour et de connaître les coureurs qui les ont conquises, revenons quand même sur la 15e étape de dimanche, marquée par la victoire inattendue du Norvégien Fredrik Dreaners de l'Uno X, au terme d'une échappée qui a trompé la vigilance des sprinteurs. Mais cette étape milanaise laissera surtout 2 images fortes. La première, c'est le sprint du peloton réglé par le jeune prodige français Paul Magnier. En franchissant la ligne en 5e position, le coureur de la Soudal Quickstep réalise une excellente opération comptable. Il reprend le mythique maillot italien Cyclamen à l'équatorien Jonathan Narvaez pour 14 petites unités, donc 145 points contre 131. La seconde image, beaucoup moins glorieuse, concerne l'italien Enrico Zanoncello. Le coureur de la Bardiani a été purement et simplement exclu du Giro après avoir asséné un coup de tête au britannique Robert Donaldson en plein sprint, provoquant la lourde chute de ce dernier. Une manœuvre d'une dangerosité assez folle, sanctionnée immédiatement par les commissaires. Carton jaune, amende de 500 francs suisses et retour immédiat à la maison. Après une journée de repos bien méritée, donc les coureurs faisaient aujourd'hui incursion en territoire helvétique, donc pour la 16e étape. Le départ était donné à Bellinzona pour une arrivée perchée à Cari. C'était une étape courte mais extrêmement dense, puisqu'après 2 ascensions de mise en jambe, l'explication finale avait lieu donc sur les pentes de Cari, 11,7 km d'ascension à 7,9% de moyenne. Un classique qui a donc rendu son verdict tout à l'heure, et sans surprise, le patron a encore frappé, puisque idéalement lancé par sa garde rapprochée de la Visma, Jonas Vingegaard a placé une accélération fatale à 6,6 km de l'arrivée. Seul Félix Gall a donc pu faire brièvement illusion. Le Danois s'envole en solitaire pour décrocher sa 4e victoire sur ce Giro. Au classement général, le suspense est définitivement tué, sauf grande surprise, puisqu'il possède ce soir un matelas de 4 minutes et 3 secondes d'avance sur son dauphin, donc Félix Gall. L'ascension a quant à elle fait le grand tri pour le maillot rose. L'italien Giulio Pellizzari a totalement explosé. L'ancien leader Afonso Eulalio a logiquement, comme on l'a dit précédemment, glissé au classement. La guerre pour les 2 dernières marches du podium se résume désormais à un combat à 3. Donc Félix Gall, 2e, solide dauphin à 4 minutes et 3 secondes. Tim Arensman, 3e, en embuscade à 4 minutes et 27 secondes. Et puis Jane Lay, donc 4e, désormais débarrassé de toute concurrence interne chez les Red Bull Bora, à 5 minutes de Jonas Vingegaard.
Parfait, merci beaucoup pour ce point. Giro, on suivra la fin la semaine prochaine.
On connaît déjà le vainqueur normalement, ouais. Sauf grosse maladie. Voilà. Mais normalement, ça sera Jonas Vingegaard.
Sait-on jamais. On l'annoncera quand même dans les prochaines émissions. Rapide point sur les matchs en cours. D'abord, OGC Nice Saint-Etienne, ça fait 0-0 à bientôt la 14e minute. Sur Roland-Garros, Clément Tabur perd 4 jeux à 1 et va bientôt perdre 5 jeux à 1 contre Yannick Sinner. Et enfin, du côté de Cholet, il reste très peu de temps, il reste 17 secondes et ils perdent de seulement 2 points, 68-66. J'ai pas accès aux images, mais je ne sais pas si Cholet a la balle ou pas pour cette dernière action. Donc je pense pas qu'on puisse rester après le temps mort. Mais voilà, Cholet peut peut-être le faire contre l'Asvel sur ce match-là, ouais. Après avoir été mené de 12 points à la mi-temps. On va se dire au revoir.
Ouais, carrément. On peut faire un petit pronostic peut-être de la finale de Ligue des Champions, quand même.
Rapidement.
Ouais. Moi, je dis allez, 3-1 Paris.
Moi, on l'avait fait vite fait la semaine dernière, j'avais dit 1-0 Arsenal pour le dire. Voilà.
Ok, ouais, tu le martèles. On verra mardi prochain alors.
Voilà, c'est ça. Et on.